Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Hélène au micro, une jeune maman française mariée à un Coréen, vivant tous les deux en Corée du Sud avec leur petit Luca. Elle nous raconte son parcours pour arriver là-bas, mais également la rencontre avec son mari et surtout le suivi de sa grossesse et son accouchement. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Hélène!
Salut!
Merci de vouloir prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Je vais te demander du coup de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Alors, je m'appelle Hélène, j'habite en Corée du Sud et donc j'ai un petit garçon qui s'appelle Luca qui vient d'avoir un an et mon mari, Yongyan. Voilà.
Bah, félicitations d'avoir survécu la première année de ton enfant.
C'est la plus belle. Je suis sûre que c'est la plus belle.
J'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment tu en es venue à la Corée, pourquoi tu t'es expatriée là-bas.
En fait, au départ, c'était purement stratégique, on va dire. Je me disais, par rapport aux études, j'ai fait des études de marketing et de com, et je me disais, la Chine, je ne parlerai jamais chinois assez. Et puis, il y a une telle diaspora de Chinois en France qui parle parfaitement les deux langues que je ne pourrais jamais faire concurrence. Le Japon, c'est fini. Qu'est-ce qui reste? Il restait la Corée.
Pourquoi le Japon, c'est fini?
Enfin, économiquement parlant, c'était plus, c'était plus la même chose. Donc, oui. Je me suis dit, ça peut être sympa pour le plan plus professionnel, faire une année, une année d'études là-bas. Et ça a été un peu la révélation.
Oh, trop bien. Donc, tu fais ton année d'études là-bas et qu'est-ce qui se passe à l'issue de ça? Est-ce que tu rencontres ton futur époux pendant...
Non. Alors, en fait, je fais même un semestre uniquement. Je rentre en France parce qu'il faut que je finisse mon master. Tout s'enchaîne. Après le master, moi, je suis embauchée. Donc, je travaille dans les RP. Mais ça me trotte toujours dans la tête. Je me dis, en fait, si je repars pas maintenant, je vais m'installer, je vais être prise dans mon train-train, le boulot, et j'irai jamais. Je dépose un dossier pour faire un deuxième master, cette fois-ci totalement en Corée du Sud. Et en fait, je rencontre mon mari à ce moment-là en France. Voilà.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faisait en France, lui?
Lui, il voulait être en France. lui, il était là en visa vacances-travail. Et en fait, par contre, il voulait rester sur le long terme en France.
Et, d'accord.
Quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, oui, mais moi, j'ai l'intention de repartir dans tout le pays, en fait.
Il parlait français?
Très peu. Très
d'accord.
Peu.
Alors, comment vous communiquez ensemble? T'avais appris le coréen?
Alors, j'avais un petit peu des bases, mais honnêtement, j'avais pas grand-chose. Quand on part en échange, en général, on est plus avec tous les étrangers d'échange, voilà. Donc, on parlait principalement en anglais.
D'accord.
À ce moment-là. Principalement en anglais, et puis après, peu à peu, au fil du temps, beaucoup plus de coréen.
Qu'est-ce qui se passe à l'issue de cette rencontre? Est-ce que vous restez en France? Vous décidez de repartir en Corée? Comment se goupille un peu votre vie?
Ça va très, très, très vite, puisque, alors en fait, on se rencontre une semaine après, il vivait dans ma chambre.
D'accord.
Petite chambre, parce que, Paris, donc
chambre de bonne,
quoi. Donc, sans aucune intimité ni rien, donc au moins, c'est, ça passe ou ça casse. Ça crée des liens. J'ai été acceptée pour mon master et moi je lui dis attends, t'as un visa vacances travail, t'en as que un dans ta vie, ça dure un an, tu vas quand même, tu restes là. Et puis en plus on a commencé notre relation il n'y a pas si longtemps que ça, on verra ce que ça donne. Donc je lui dis et en fait finalement il m'a suivi en Corée. C'est assez drôle à dire, c'est un Coréen qui m'a suivi en Corée, mais c'est comme ça que ça s'est passé en fait.
Donc, tu pars pour faire ton master en Corée avec lui, du coup, dans ta valise. Du coup, lui, il retourne à la maison. Comment ça se passe alors, ton master? Attends, il dure combien de temps quand tu vas là-bas?
Deux ans.
Deux ans, d'accord.
Deux ans, génial. J'ai adoré étudier. C'est dur. c'est pas facile. Les universités coréennes sont... le système éducatif en Corée est quand même assez compliqué. Puis après, c'est un
tel budget. Compliqué, tu veux dire plus rigoureux?
Ah, très rigoureux, très rigoureux. Ouais. Et puis après, c'est un tel budget qu'il fallait que je travaille à côté aussi. Et je pouvais pas j'avais besoin des bourses, en fait, au mérite. Donc, je devais travailler à fond.
Oui.
Mais ça a été génial. J'ai rencontré des gens venus de tous horizons.
Et alors, à quel moment Luca arrive dans vos vies, ou au moins le désir d'avoir un enfant?
Eh ben, écoute, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai rencontré mon mari à l'époque, je détestais les enfants. Je détestais, mais vraiment, j'entendais un enfant pleurer, ça me mettait hors de moi. Mon mari lui avait déjà envie d'enfant, moi c'était impossible. Je me disais, mais en gros, si t'es avec moi, tu n'auras jamais d'enfant. Et je sais pas pourquoi, mais d'un coup, ça m'est venu cette envie. Du coup, on voulait d'abord se marier, suivre un petit peu les règles coréennes quand même. Ouais.
Alors, comment il t'a fait sa demande alors?
Ah, c'est moi qui ai fait la demande.
Oh, c'est trop chou. Alors, comment t'as fait ta propre demande?
Oh, rien de très, très glamour, hein. C'est juste que, en fait, on en parlait du mariage depuis un moment, mais je me disais, mais en fait, j'ai essayé de lui tendre des perches, hein.
Ouais. Moi, je voulais pas. Homme, je comprends pas trop les perches.
Oh, bah ouais, je voulais pas le gros truc, mais je sais pas, juste un repas sympa, quelque chose, enfin voilà. Donc, comme c'est pas arrivé, je me suis dit, bon, bah, il serait peut-être temps qu'on accélère un peu les choses et. Et à cette époque, en fait, en Corée, ça se fait beaucoup d'avoir des bacs de couple. On en avait une et que je suis très traditionnelle sur certaines choses. À chaque fois que j'en essayais en bijouterie, je ne l'essayais qu'à la main. Je réfléchis. Qu'à la main droite. Ouais. Je disais à la main gauche, non. Ce sera pour ma fiançailles ou mariage. Et okay. C'est moi qui ai été les chercher et je lui ai mis une petite boîte et je lui ai demandé est-ce qu'on la porte à la main gauche? Et voilà. C'était ma demande.
Trop chaud. Et il a dit oui, j'imagine.
Ah, bah en fait, il n'avait pas vu le post-it, et du coup, il est monté avec la bague à la main droite et dans la chambre, et je me dis, ok, bon, bah, il veut pas. Et en fait, non, c'est juste qu'il n'avait pas vu le post-it. Un mètre, quoi.
Donc, à l'issue de ça, vous vous mariez?
Ouais.
Est-ce que vous faites un mariage traditionnel coréen ou plus.
Alors, on fait trois mariages.
Trois mariages?
Ouais, on se marie d'abord à la mairie. Et alors là, c'est rien de sexy. C'est tu prends ton ticket dans la file d'attente, tu au milieu de ceux qui font leur demande de passeport et autres machins, tu vas signer et on te dit voilà, c'est bon, vous êtes mariés. Voilà.
Ok, très sympa.
Bon, c'était pas très.
Ouais, c'est administratif.
Voilà, c'est vraiment purement administratif, mais même pas une jolie salle ou rien. Un mariage traditionnel en Corée.
Ok, alors à quoi ça ressemble ça?
Oh, c'est un habit traditionnel très grand, très encombrant. des choses très... Enfin, s'agenouiller,
Ça dure combien de temps, une cérémonie traditionnelle?
En tout, avec les danses avant et tout, je vous dis une heure. Après un mariage en Corée, c'est très, très, très court. Il n'y a pas de fête et tout, quoi. Le mariage, bah, c'est cool et c'est pas cool, quoi.
Ouais, parce que tu dépenses des sous, j'imagine, pour,
bah, oui, puis
pour
en
une
fait,
heure.
Ouais, mais puis après, c'est que t'as... En fait, ça finit un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Enfin, en gros, on se marie et tout le monde va manger et puis tout le monde repart, quoi. Et c'est fini.
D'accord.
C'était, je garde un très bon souvenir de la cérémonie en elle-même. Après, c'est pas, pour moi, c'était pas vraiment chargé en émotions, quoi.
D'accord.
Du coup, j'ai organisé pendant plus d'un an encore mariage en France pour faire une cérémonie laïque en France, et qui là, pour le coup, était beaucoup plus. Avec beaucoup plus de valeur,
dansant
beaucoup plus personnalisé.
Et...
Ouais. Oui, et puis surtout beaucoup plus à notre image, quoi. C'est-à-dire, c'était pas le truc, cérémonie traditionnelle, c'est ce que ça veut dire, hein. C'est traditionnel, donc c'est à l'ancienne et tout le monde fait suivant les mêmes coutumes. Là, c'était vraiment à notre image, quoi.
Et vos familles respectives ont participé aux deux mariages
Ouais, les deux, à chaque fois, on fait le voyage.
D'accord, ça a dû les changer du coup, je pense, les Coréens, de voir les Français sur le dance floor.
Ah ouais, ils ont dit, en fait, on comprend maintenant pourquoi les gens se marient, quoi, parce que en Corée, en fait, tu te maries plus pour la famille, que, enfin, c'est pas vraiment pour le couple, quoi, c'est plus pour montrer, quoi. Et à ce moment-là, j'arrête ma contraception, parce que, en fait, chose que seuls les expatriés pourront comprendre, ça faisait 4 ans que j'étais pas rentrée en France. J'allais me marier en France. Il était hors de question que, rentrée en France, je ne puisse pas toucher à cognac Schweppes, champagne, foie gras et autre chose. Donc, je disais non, je fais le plein de tout ce qu'il me faut. Voilà. Et puis, une fois mariée, j'arrête ma contraception et là, on pourra y aller.
Ok.
Et voilà. Et puis, je suis tombée enceinte très rapidement après.
Ah bah, génial. Comment tu l'annonces à ton époux que tu es enceinte?
Alors là, j'ai rien fait de spécial parce qu'en fait, enfin, je crois qu'il était plus au courant que moi, limite, de mes cycles, autre machin. Donc, il savait, tiens, t'as pas encore eu? Bah non, j'ai pas encore eu mes règles. On fait un test et puis, oh, je sors de
D'accord.
toilette. On le découvre ensemble, en fait.
Il faisait un suivi, il faisait un fichier Excel de ton
Ah,
suivi, de
du
ton
tout!
cycle
Non,
menstruel.
du tout, en fait, c'est juste que, enfin, je sais pas, en plus, non, il était pas, bon, je sais pas, il était au courant. Et puis,
D'accord.
moi, j'étais juste, oh, tiens, contente, et en fait, lui, il s'est mis à pleurer.
Oh,
Donc,
il est trop
et c'était la
mignon.
première fois que je l'ai vu pleurer. Pour notre mariage, j'ai fait des vœux super beaux et tout, il a jamais eu une seule larmichette. Mais par contre, quand il a vu le test de grossesse, il s'est mis à pleurer. J'étais
Oh, c'est
vraiment
trop mignon.
super
T'as de la
étonnée.
chance. Moi, j'ai jamais vu mon mec pleurer encore.
Ah, bah,
Je sais
c'était
pas
la
ce qu'il va
seule,
me
je crois.
falloir. Je sais pas. Comment se passe le suivi de ta grossesse en Corée? Est-ce que tu peux nous expliquer trimestre par trimestre comment ils te prennent en charge?
Alors, c'est ultra, ultra, ultra suivi.
Ah ouais?
C'est-à-dire qu'en gros, moi, par exemple, je vois le test positif, bah, je me dis, bah, en fait, je regarde mon mari, je dis, mais ok, on fait quoi maintenant? Parce qu'en France, on fait une prise de sang pour valider, et puis après, voilà, on fait une datation. Enfin. Et en fait, tout de suite, en fait, en Corée, il y a des hôpitaux pour femmes, en fait. C'est là que se passe tout ce qui est gynécologie, accouchement, enfin, voilà. Et
Okay.
il me dit tout de suite, on va là-bas. Et en fait, tout de suite, j'ai une échographie, ce qui sert à rien, parce qu'évidemment,
Ouais, ça sert à
j'aime
rien.
pas enfin, j'étais au premier jour de retard, donc il voit rien du tout. Il me demande la semaine d'après. Donc la semaine d'après, on voit un sac. Après, il faut voir encore la semaine d'après pour voir s'il y a un cœur qui est bah, pas encore. Et en fait, en gros, j'ai eu une échographie toutes les semaines, presque,
Ouais, c'est
pendant le premier.
étonnant ça.
Ouais, et puis du coup, enfin, voilà, premier trimestre, c'est des échographies bah,
Et
comme
puis
plein
tu
d'autres, hein.
travaillais, toi?
Ouais, je travaillais.
Alors, comment tu dis à ton employeur, bah désolé, il faut que j'aille chez le médecin
Je
aussi
faisais ça le
souvent?
week-end. Ah oui, parce qu'en Corée, samedi, dimanche, ils ne connaissent pas.
D'accord, ok. Parce que j'allais
Donc.
dire, mais je vois pas, tu sais, je vois pas comment tu peux cacher ton premier trimestre à ton employeur si tu lui
Ah
dis, bah
non.
écoute, je vais chez le médecin, bizarrement.
Non, bah, samedi, dimanche, voilà. Puis du coup, ouais, presque toutes les semaines. Puis après, bon, la
D'accord.
deuxième trimestre, ça s'espace un petit peu, mais ça reste quand même vachement courant. Et troisième trimestre, ça se re-rapproche de nouveau presque toutes les semaines, quoi.
Ok.
Donc,
Mais.
j'ai un album entier de vidéos, et parce qu'en plus, on reçoit les vidéos des échographies et tout aussi.
Des vidéos?
Ah ouais, on a une application, et en fait, toutes les vidéos de les échographies sont téléchargées dedans, quoi. Donc,
D'accord.
j'ai des dossiers de vidéos, d'échographies, échographies 3D, enfin, truc de fou.
Bah, tu me diras, c'est génial, mais inversement, moi j'ai l'impression que si j'allais autant faire des échos, je deviendrais paranoïaque à la fin, quoi.
Bah, en fait, honnêtement, je pense que ça m'a peut-être fait plaisir pour le premier enfant parce qu'à chaque fois tu
Ouais.
le vois et enfin, c'est sympa d'avoir toutes ces photos
Oui,
de lui, tu vois.
c'est clair. Parfois, ils sont effrayants, par contre, hein,
Ouais,
les 3D.
c'est vrai. Non, moi j'ai eu de la chance, c'était tout bienvenu, tu vois. Donc c'est sympa. En plus, enfin, c'est pas comme en France où tu passes 3 heures dans la liste d'attente et machin et puis où tu mets
Ok.
tes vêtements sur la chaise et tu te retrouves
À
à
poil,
poil
ouais.
à travers le truc. Non, c'est vraiment super bien fait. Tu vas à ton rendez-vous, c'est pris direct. T'as une petite jupe qui te met longue, tu vois, pour pas que tu sois non plus totalement à poil devant lui. Enfin, en gros, qui soulève
D'accord.
juste. Donc, c'est fait rapidement, 2 minutes, c'est pas si contraignant. Après, honnêtement, j'ai pas envie d'un tel suivi avec ma deuxième, quoi.
Mais alors, deux questions à l'issue de ça. Est-ce que déjà c'est gratuit? C'est par les hôpitaux
Non,
publics?
c'est pas gratuit du tout. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'ils en font autant.
Ouais. Comment il fonctionne le système de santé en Corée?
Bah, c'est très cher.
T'as une mutuelle?
Alors, il y a une assurance santé qui, bah, il y a quelques années, ne servait à quasiment rien. Maintenant, de plus en plus, ça s'est développé. Donc, ça prend pas mal en charge quand même. Et
D'accord.
après, ils ont des tels soucis de fertilité, ils ont besoin d'enfants, un peu comme au Japon, de vieillissement de la population, qu'on reçoit une carte avec l'équivalent de genre 500 ou 600 euros dessus, qui
D'accord.
peut être utilisée uniquement pour les frais médicaux, suivi grossesse, accouchement.
Mais ça te couvre que 2 semaines de suivi, globalement, non?
Bah, non, ça couvre plus quand même. Moi, j'ai
Ok.
couvert presque jusqu'à la fin de la grossesse. Après,
Ok.
tout ce qui est accouchement, j'ai dû payer à part.
D'accord.
Voilà.
À quel moment il découvre le sexe du bébé?
Alors en Corée, normalement, normalement c'est toujours dans la loi que tu n'as pas le droit de dire le sexe. Alors,
Ah ouais?
c'est une loi un petit peu comme il y a à l'époque, on avait encore la loi de il est interdit de porter un jean pour les femmes. Hein. C'est une loi qui.
Oh, est-ce que tu penses que c'est pour éviter C'était mettre pour court leur grossesse si c'est une fille.
Exactement, c'était ça à l'époque. Et en fait, la loi a jamais été enlevée, mais concrètement, je croyais plus, il y a plus grand monde qui la respecte. Mais il y a encore des docteurs qui la respectent.
Ok. Et dans ton cas, ton docteur l'a respectée?
Non, parce qu'en fait, je pense qu'ils font surtout attention à ce que, à voir l'attente de la maman, quoi. En gros, s'ils voient que la maman ou les parents sont vraiment en attente d'avoir le sexe et qu'ils veulent un sexe à tout prix, je pense qu'ils évitent de le dire. Moi, comme ils voyaient, en gros, ils m'ont demandé, vous avez une préférence pour le sexe? À partir du moment où j'ai dit que je m'en fichais, bon, ils m'ont dit direct. Voilà. Que
c'était d'accord. Un petit garçon. Et comment se passe alors le deuxième et troisième trimestre pour toi? T'es pas malade? Tout se passe
moi,
très bien?
Moi, j'ai eu aucun symptôme de grossesse, mais aucun. C'est si ce n'est de la fatigue, le premier trimestre, j'ai eu aucune nausée, aucune aversion nourriture. J'étais, mais pleine forme.
Bah top.
Ah oui, j'aimerais bien
et être à quel moment, direct. C'est clair. Et à quel moment tu l'annonces à ton employeur alors que tu es enceinte?
Bah en fait, ils ont su assez vite parce que j'ai pris du poids, on a vu mon ventre arriver très vite. J'aurais voulu attendre plus, nouvelle année scolaire, parce que voilà, histoire de contrat, et en fait, mais même les 3 mois, c'était pas possible pour moi, quoi. On voyait mon ventre, quoi. Donc, je pense qu'ils ont dû le savoir au bout du deuxième mois de grossesse.
Et comment ils ont réagi par rapport à ça? Il n'y a pas eu de problème? Ils ont été bienveillants avec toi?
En fait, ils ont eu très peur que j'arrête de travailler, parce que les femmes en Corée, d'habitude, dès qu'elles sont enceintes, elles restent à la maison. Et elle se repose. Et oui. Moi, que j'aurais dit non, et moi, je continue de travailler. Moi, il est hors de question que je reste à la maison. Bon, c'est bon, voilà.
Bah, on va arriver à l'instant T, au jour J. Et comment se passe le déclenchement, en fait, de ton accouchement?
Et le truc qu'on m'avait dit qui n'arrivait que dans les films, en fait.
Oui, le « Oh mon Dieu, je suis en train de perdre les os !»
Voilà, on m'avait dit « Non, ça n'arrive jamais, tu as toujours les contractions avant, c'est très rare de perdre les os sans contraction et tout, voilà.
Ouais. »
Surtout qu'en plus, moi, j'avais un rendez-vous, du coup, comme toutes les semaines, samedi, chez le médecin, qui me dit « Oh, il est toujours très haut, col fermé, il prend son temps, on a encore largement le temps, on se voit dans 2 semaines. » Au terme, à 40 semaines, quoi.
D'accord.
Et en fait, le lundi, je commence à sentir du liquide.
Et
je me presse pas trop. En fait, je me dis, bon, c'est pas très sexy, mais en fin de grossesse, ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Oui, ça peut être ça, des pertes ou n'importe quoi. Donc voilà, je me demande, puis là, ça continue, et je me dis, bon, ça sent quand même peut-être une petite fêlure de la poche des os. Je vais peut-être quand même faire un petit tour à l'hôpital. Je prends une douche quand même avant. Je me dis, au cas où, si je dois y rester longtemps, je vais avoir les cheveux propres et tout. Donc, je prends ma douche et tout, et je prends un taxi. Je vais le voir et il me dit, oh, on va faire un test pour voir ce que c'est. Je voyais qu'il n'était pas trop convaincu, il ne pensait pas que c'était la poche des os. Et en fait, commence à me déshabiller et j'inonde son cabinet, voilà. Et là, j'ai tout inondé. Et il m'a dit, bon, je crois que j'ai pas besoin de faire de test, on vous envoie.
Bah, t'étais sur place, hein. Franchement, parfait, hein.
Voilà, j'étais sur place.
Là, tu parles de ponctualité, on est pas mal, hein.
Ah, mais j'étais, voilà. Et sauf qu'après, par contre, les contractions se mettent en place, mais ça dure longtemps. Et j'avais demandé à avoir un accouchement le plus naturel possible, c'est-à-dire je ne voulais pas d'ocytocine, de picotine, de choses comme ça, sauf que j'ai perdu les os à midi, et le lendemain matin, vers 9h, ils me disent, bon, là, va peut-être quand même falloir accélérer les choses, parce qu'il n'y a plus de liquide amniotique, donc là, ils n'ont pas pu respecter cette demande-là, ils ont dû mettre de l'ocytocine pour accélérer les choses.
Mais alors, comme tu allais chez le médecin, tu nous disais que c'est un centre pour femmes, donc en fait, tout est condensé. Donc
ouais,
tu accouches là où tu vas faire tes échos et là tu,
exactement. Tu vas voir. C'est même le médecin qui me fait mes échos et en fait celui qui m'accouche.
Ah bah ça c'est super.
Voilà. Donc c'est un suivi. Donc c'est-à-dire qu'ils connaissaient mon plan de naissance depuis.
D'accord.
Voilà.
Donc ils te branchent l'hormone pour essayer de faire accélérer tes contractions.
Ouais, et là, ça fait mal. déjà quand t'as la poche qui est déjà rompue et en plus avec l'ocytocine, ouais, voilà. Et ça dure quand même encore.
Tu passes la journée, ouais.
J'ai passé la nuit comme ça. Puis ça continue encore parce qu'en fait, j'ai accouché à 13h le lendemain. Donc, ça a duré 24 heures en fait. Donc, ça a été long.
ouais, ma pauvre. Et ton conjoint, il était à côté de toi? Il t'avait rejoint à l'hôpital?
Il m'a rejoint le soir uniquement. Il travaillait. Donc, il m'a rejoint le soir. Il était tellement crevé qu'il a dormi toute la nuit. Donc, ouais, il était un petit peu là, par petits moments. Ouais.
Et comment ils te prennent en charge une fois que tu es en train de... quand le travail est déclenché?
J'avais demandé, moi, à être le plus seule possible. J'avais pas envie d'avoir je sais pas combien d'examens à chaque fois pour vérifier à combien j'étais ouverte et tout.
Ouais.
Donc j'avais demandé... Bah, après, j'ai vraiment demandé le truc que toutes les Coréennes ne demandent pas, en fait. J'ai eu l'accouchement... Si tu me demandes pour avoir une idée de comment les Coréennes accouchent, c'est pas à moi qu'il faut demander. Parce que D'accord. J'ai vraiment... J'ai fait toutes les demandes inverses, quoi.
Donc, pas de péri?
J'ai demandé à ne pas faire de péri, enfin, qu'on ne me la propose pas. J'ai dit, c'est moi qui demanderai si j'ai besoin.
Ok.
Et en fait, à midi, donc après 24 heures, et là, ils me font quand même un examen, ils me disent que je suis ouverte, je crois, 4 ou 5. Et je me dis, oh là là, ça va durer encore des heures. Et là, je me dis, bon, là, je suis fatiguée, je cède quand même à la péri. Et en fait, à peine posée, il est né 43 minutes plus tard. Donc,
Oh, trop bien.
Donc en fait, je sais même pas dans quelle mesure la péri a marché ou pas. J'ai pas d'exemple de comparer. Je peux pas comparer. Pas tant que ça, puisque j'ai quand même senti le passage des épaules et tout, et j'étais debout direct après l'accouchement. Donc je n'ai pas été anesthésiée, mais je pense que ça m'a quand même certainement aidé à détendre mes muscles et à faire descendre dans le bassin et tout. Donc finalement, c'est bien comme c'était.
Ok, mais c'est super si tu as réussi à passer de 4 à 10 en
d'une heure. Ça a été 40, ça a été, je me souviens plus des 43 minutes, c'était la lumière blanche.
Mais c'est trop bien. Parce qu'en plus, je pensais que une fois que tu posais la péri, du coup, le truc était un peu ralenti.
Bah, en fait, je crois que ça a été l'inverse pour moi, parce qu'ils m'ont vraiment mis une petite dose, et ce qui fait que j'ai quand même senti mes contractions, j'ai pu, mais ça m'a permis peut-être de moins crisper en fait avec la douleur et de permettre une meilleure descente dans le bassin. Tu vois.
C'est intéressant. Ok. Comment se passe alors la rencontre avec Luca?
En fait, j'étais dans les vapes.
Tu devais être épuisée, magique,
on te le pose et tu pleures, révélation et tout, et en fait j'étais dans les vapes et il est né, ça y est quoi. En fait j'avais qu'une envie, c'était de dormir, donc rien de magique. Mais
te le mettre en peau à peau,
j'avais demandé à ce qu'ils le mettent tout de suite en peau à peau, j'avais demandé à pas pendant quelques heures, c'est ça le souci, ils te le mettent en peau à peau un peu. J'avais demandé à ce qu'on me laisse le mettre au sein, et après en fait ils le prennent pour les examens, et en fait logiquement tu n'as pas le droit de le voir pendant 4 heures parce que pour tous les examens. Et alors ça c'est le truc, j'ai pas compris, à cause des examens ils disent, et après parce que soi-disant la maman a des médicaments dans le sang et tout. J'ai dit mais j'ai quasiment rien en médicaments, j'ai eu un peu de péri et je suis debout quoi. Et en fait j'ai fait un esclandre, pleurs, hurler, tout ce que tu veux devant la nurserie, en disant mais laissez-moi mon bébé quoi, pour qu'il m'ouvre et qu'il cède enfin et qu'il me laisse mon bébé.
Ouais. Donc du coup ils te l'ont donné?
Bah ils m'ont donné, sauf qu'en fait en Corée on te le met pas dans la chambre, ils le gardent en nurserie, et en fait ils t'appellent pour l'allaiter.
C'est trop bizarre.
C'est très bizarre. En fait, ça a le côté positif qu'en fait, la maman est peut-être plus prise en compte qu'en Europe. C'est-à-dire qu'en vrai, qu'en Europe, on se préoccupe du bébé et la maman, on la laisse un petit peu crever et tout ce que tu veux, tu vois. Là, on s'occupe du bien-être de la maman, mais à un point un peu extrême, quoi. On te prive limite de ta maternité.
Bah oui.
Ouais, et ça ne m'a pas convenu. Donc, j'ai fait... Ils se souviennent de
Parce
moi.
Est-ce que tu penses que le bien-être de ta maman, c'est justement après 9 mois de passer beaucoup de temps avec ce
je
petit être?
Je pense pas. Non, je bien c'est sûr vrai? Que non, je pense pas. Mais je pense que pour eux, en fait, ils se disent que la maman a besoin de se reposer. Moi, je comprends pas non plus, mais je sais que mes amies coréennes disent, je sais c'est pas normal. Comment vous faites en Europe d'avoir le bébé tout de suite avec vous. Enfin, vous devez être fatiguée, vous pouvez pas dormir. Et moi, par contre, c'est l'inverse. On m'enlève mon bébé, enfin, j'ai encore le ventre. Bah, quand tu viens d'accoucher, tu as le ventre, mais tu sens qu'il est vide et t'as pas ton bébé avec toi, quoi.
Ouais. Moi, je me rappelle que j'avais eu un élan justement d'énergie les premiers jours. Bon, après, ça a vite redescendu, mais j'étais au taquet.
Mais pareil. Mais moi, du coup, je campais devant la nurserie et je disais, ah, c'est pas l'heure, c'est pas grave, laissez-moi mon bébé. Je vous appellerai.
Je comprenais même pas les mamans qui voulaient le laisser la nuit. Après, oui, je comprends que tu as envie de dormir et que peut-être que pour le deuxième, quoique je suis même pas sûre pour le deuxième, j'aurais envie de le laisser à la nursery. Non, je comprenais pas ces nanas qui le laissaient là-bas. Et moi, le strict minimum, c'était vraiment de le laisser 15 minutes, le temps d'aller prendre une douche, quoi. Et après, tac-tac, j'allais récupérer mon petit, quoi.
Moi, c'était limite l'inverse. C'était limite si j'avais le droit de le voir 15 minutes par jour. Enfin, techniquement, c'était ça. Mais en fait, moi, j'ai pas laissé faire ça comme ça. Enfin, c'était pas possible pour moi. Donc, donc j'étais tout le temps là-bas en fait. Ils me le laissaient pas prendre dans la chambre, mais du coup j'étais tout le temps à la nurserie.
si tu voulais aller l'allaiter, est-ce que c'est comme au Japon où j'ai un autre épisode, Valérie, qui nous expliquait qu'ils avaient des salles de lactation?
C'est ça, en fait, c'est avec la nursery, tu as la salle de lactation à côté, et en fait, ils t'appellent, mais sauf que, en gros, tu as un schedule, enfin, un emploi du temps. Et en gros, moi, j'ai quand même dit, mais enfin, je suis pas sûre que mon bébé à 2 jours, il sache encore suivre un emploi du temps pour savoir quand il a faim. Donc,
Ouais.
je vais pas descendre
Bah, ils
aux
doivent
heures qu'ils
t'appeler
sont dites.
quand ils pleurent, non? Comment ils
Ouais,
font du
bah
coup
oui, mais
quand
sauf
ils
que
pleurent?
évidemment, enfin, je veux dire, moi, il faut que je descende 2 étages et tout. Alors, du coup, j'arrive, ils me disent, ah, il avait faim, j'allais lui donner un biberon. Je dis, non, je vous ne donnais pas de biberon.
Ouais, c'est
Donc, à la fin,
étonnant.
en fait, je passais quasiment mes journées à la nursery, dans le côté lactation, et en fait, je passais mes journées là-bas, quoi. Donc, j'ai quasiment pas mis les pieds dans ma chambre.
Ça s'est bien passé pour toi du coup la mise en place de l'allaitement?
Bah oui, si ce n'est du coup ces contraintes bah, dues à l'hôpital, en fait, à la gestion, dans ces... enfin, la gestion de ça. Et
Ouais.
puis après, en centre mère-enfant, enfin, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, post-natal care, un truc comme ça.
Ouais.
Une espèce de centre où on va après, enfin, qui est lié avec l'hôpital, en fait, hein, un centre de repos pour la maman, avec l'enfant. Et là, c'était un peu pareil, en fait. On prend soin de toi, on te fait à manger, on te fait tout ce que tu veux, des massages, t'as tout. Mais en même temps, on te prive un peu de ton rôle de maman. Je pense que ça m'a un peu freinée parfois pour mon allaitement. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, ils voulaient, ils avaient tellement peur que je fatigue, et ils voulaient pas me réveiller dans la nuit, qu'ils disaient, mais non, mais enfin, tirez votre lait et dormez. Et je disais, non, je ne tire pas mon lait, je veux juste l'allaiter, le mettre au sein. Et en fait,
Oui.
j'avais du mal à leur faire comprendre que ça va, j'étais fatiguée, mais que c'est normal et que je voulais juste allaiter, quoi.
Et t'avais des infirmières qui te prenaient en charge si t'avais du mal à le mettre au sein ou c'était une nana à côté qui t'aidait?
Bah, ils étaient censés m'aider, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'ils soient très doués niveau allaitement, en fait, hein.
Combien de temps tu restes à l'hôpital une fois que t'as donné la vie à Luca?
Hôpital, donc c'est-à-dire en
Oui.
hospitalisation, 3-4 jours, je pense, 3 jours.
D'accord.
Et après, du coup, j'ai été dans ce truc de centre mère-enfant, on va dire.
Ah
Là,
donc ils te laissent pas
c'était.
rentrer chez toi?
Ah, tu peux rentrer chez toi? Mais en
D'accord.
gros, tous les Coréens font ça. Et mon mari disait, mais non, mais si, ça va te faire du bien et tout. Et tous les Coréens font ça pour que tu puisses te reposer et tout. Et moi, j'avais demandé le plus court, c'est-à-dire 10 jours. Voilà.
10 jours.
Ouais. Ah, mais moi, j'ai des personnes qui restent un mois là-bas. Hein.
Donc tu restes 3-4 jours officiellement hospitalisé et après tu vas dans ces centres de post-accouchement
Ouais.
pendant un mois.
Bah, moi, j'ai pas du tout fait un mois, mais il y en a qui le font, ouais. Mais après, c'est... Enfin, moi, j'ai rencontré des mamans là-bas qui, quand je leur demandais depuis combien de temps ils étaient, elles me disaient « Oh, je m'en vais déjà demain, j'ai pas envie de partir. » Et moi, j'attendais que ça de partir, en fait.
Ouais.
Mais elles veulent pas partir parce qu'on te fait à manger, tu as des massages, tu as bah, enfin, des bains, on s'occupe du bébé quand tu veux, en fait, enfin,
C'est
voilà,
quand
quoi.
même cool. Enfin, parce que. Mais non, ils vivent quand même. Ils sont très communautaires. Ils vivent quand même en famille en Corée, non? Tu penses que si tu rentres
Ouais.
chez toi, il y a quand même ta mère qui vient t'aider et ce genre de choses, non?
Bah non, parce qu'en fait, une fois que t'es mariée, t'appartiens à la famille de ton mari. Donc en fait, c'est plutôt l'inverse. T'es censée faire à manger pour ton mari, les enfants et les beaux-parents. Donc finalement, en fait, je comprends
D'accord.
pourquoi elles veulent rester dans ces centres.
Ouais.
Là-bas, au moins, ils n'ont rien à faire.
Bah c'est clair parce que j'étais en train de me dire, bon bah, même si tu rentres chez toi, je me dis qu'il y a quand même ta belle famille qui peut venir t'aider, au moins ta belle-mère qui peut venir t'aider pour
Bah,
t'occuper du petit.
moi j'ai une super super belle famille, mais après c'est vrai que c'est pas ma belle famille est pas enfin c'est la
C'est pas
famille coréenne est ouais,
traditionnel
non
nécessairement, ouais.
ouais, ils sont géniaux, mais en général c'est pas du tout la même chose dans les autres familles, donc je peux comprendre en fait pourquoi elles aiment être dans ces endroits-là où au moins elles ont pas la belle-mère sur le dos et
Je trouve que c'est pas une mauvaise idée, hein, mine de rien, dans ces
non,
cas-là.
en fait
Enfin, compte tenu du
je trouve ça très
contexte,
bien. En fait, je
ouais.
trouve ça très bien. Je trouve ça aussi très bien qu'on se préoccupe un peu de la maman et pas juste du bébé, parce qu'en France, enfin, la famille vient voir le bébé et puis après 2 jours d'hospitalisation, on te renvoie chez toi, premier bébé et puis bah débrouille-toi toute seule et t'es crevée et tu peux être en dépression postpartum ou tout ce que tu veux, on s'en fiche quoi.
Oh, je trouve que quand même en France, t'as un meilleur suivi aux US. Enfin, pour le coup, t'es vraiment
Livré.
24 heures, 48 heures après, t'es largué chez toi et good
Ouais.
luck, quoi. Et t'as pas de suivi de
Ouais.
consultant qui vient te voir chez toi ou ce genre de choses. Donc,
Voilà, pour l'allaitement, la dépression, tout ça, on ne sait pas. Donc, en fait, je pense que pour ça, c'est bien qu'on se préoccupe de la maman aussi. Parce que d'un moment, j'ai eu notamment des espèces de tests, tout, pour voir dépression postpartum, toutes ces choses-là. Et, mais de l'autre, je pense que c'est trop, comment dire, tout le monde pareil en fait. C'est-à-dire tout le monde pareil et ça ne te laisse pas place à chaque maman à faire un rôle, à prendre son rôle et à faire des choses différemment en fait. Tous les bébés sont faits de la même manière.
Alors, tu me disais qu'au bout d'une semaine, 10 jours, tu rentrais chez toi ?
Ouais.
Comment se passe le retour à la maison ?
Bizarre. Là, je me dis, comment je vais garder ce petit en vie ?
Parce que, donc, du coup, ton mari, il avait pu prendre un congé parental ou ça n'existe pas en Corée ?
Ah, ça existe sur le papier. Et après, c'est, je crois, c'est 2 ou 3 jours. Ça, c'est en train de changer pour être passé à plus, mais 2 ou 3 jours. Enfin, en fait, de toute façon, mon mari, dans le boulot qu'il fait, il ne peut pas prendre des congés quand il a envie d'en prendre. Donc, il était dans une période chargée, donc il n'avait pas de congé. Il partait plus tard le matin pour m'aider un peu, mais après, non, j'étais seule à la maison.
Et ta famille, elle avait pu venir t'aider ? Peut-être ta mère, elle a pu faire le déplacement en Corée ou pas ?
Ma famille est venue plus tard, quand Lucas avait 3 mois. Mais ça, c'était un désir de ma part aussi. Parce qu'en fait, je savais que même s'ils étaient venus, même si c'était peut-être le désir de m'aider, ça reste quand même une famille française qui arrive en Corée et ils auraient eu besoin de mon aide, en fait. Donc, j'aurais peut-être eu, en fait, plus de charge mentale encore qu'autre chose, à devoir les gérer eux, les aider eux, à s'occuper de leur hébergement, toutes ces choses-là. Donc, non.
D'accord.
Non, j'avais pas envie.
Mais alors, comment ça se passe, la rentrée à la maison toute seule à devoir gérer Luca toi-même ?
Bah, en fait, je suis arrivée le week-end, donc le week-end a été compliqué. Et, mais après, en semaine, on a fait appel à une... Alors, c'est quelque chose pareil qui est mis en place par le gouvernement, qui est payé par le gouvernement. Tu peux faire appel à quelqu'un qui vient t'aider à la maison. Je ne pourrais pas traduire ça. C'est pas vraiment une babysitter.
C'est une aide-soignante à manger.
Non, elle occupe, elle fait le ménage classique.
Trop bien.
Elle fait à manger, elle peut s'occuper du bébé aussi. Hein, elles ont une qualification pour s'occuper du bébé. Après,
et
moi,
tu
j'ai directement. Tu payes une partie, mais c'est très très faible.
Enfin,
je crois
c'est
qu'on a payé
un jour.
On a fait 2 semaines, on a dû payer. Mais par contre, c'est limité dans le temps, c'est jusqu'à 3 semaines, je crois, max. Donc, on a fait 2 semaines et on a dû payer un truc comme 200 euros pour 2 semaines.
Mais alors, attends. 3 semaines à partir du moment où normalement tu rentres chez toi après 1 mois, c'est ça ?
Ouais, moi du coup j'ai raccourci tout ça parce que j'ai fait que 10 jours en centre, après j'ai fait que 2 semaines, mais ouais, tu peux mettre tout à la suite et du coup.
Franchement, c'est trop bien cette aide. Donc c'est une nana qui vient t'assister un peu pour les tâches ménagères.
Ouais, mais en fait elle peut assister pour le bébé, elle peut faire le bain et s'occuper du bébé et tout, le nourrir. Après, moi ça a été une demande de ma part, j'ai dit le bébé c'est moi qui m'en occupe. Par contre, bah, elle m'a fait mon ménage, elle me fait à manger pour moi.
Oh, c'est trop bien.
Donc, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de me préoccuper de mes repas, tout ça. Et du coup, je pouvais vraiment me centrer que sur Luca, quoi. J'avais
c'est
pas
trop
besoin
bien.
De gérer le reste. Même le repas de mon mari le soir, elle le préparait. Donc, voilà.
Trop bien. Parce que je me rappelle, j'avais dit à Mac, tu gères l'intendance de l'appart, je gère Pierre.
Ben voilà.
Parce que sinon, tu prends pas le temps de manger. Hein. Et ben quand t'as l'aide, t'as besoin de manger.
Ouais, j'avais soif et faim en permanence, donc c'était génial. En fait, c'était vraiment génial. Genre, même je me mettais à allaiter et je dis oh mince, mon verre il est sur la table, elle arrive avec mon verre et tout.
C'était
génial.
C'est royal.
Parce que du coup, mon mari pouvait travailler et sans s'inquiéter pour moi. Et moi, j'étais à fond sur Lucas et à s'occuper du reste.
Là, tu vois, tu m'as donné envie d'aller accoucher. À part le suivi de la grossesse, so far, tu me donnes envie d'aller en Corée.
Ça, c'est génial. Mais je sais, je pense que pour deuxième grossesse, je skip le centre mère-enfant. J'essaye même de peut-être passer outre l'hôpital classique. Et par contre, ça, j'y vais à fond. 3 semaines,
franchement. Et c'est 3 semaines maximum ou tu peux
demander
un peu plus ?
Alors, après, c'est particulier.
Mais tu payes.
Je crois que ça dépense. Ouais, en fait, après, tu payes à fond après, en plus, 3 semaines. Après, je crois que ça dépend du nombre d'enfants ou des trucs comme ça. J'ai pas regardé plus en détail. Je sais pas si à partir du deuxième enfant, tu peux pas avoir plus. Parce que là, du coup, c'est l'avantage, ils s'occupent aussi de l'aîné pendant que tu le bébé.
Ouais. Oh, trop, trop bien. Et ils ont tout compris sur le postpartum. Hein. Franchement, trop bien.
Franchement, ça, c'est cool.
Et toi, t'avais pu prendre un congé parental alors ou pas ?
Moi, je me suis arrêtée de travailler en fait. J'avais un contrat un peu particulier de façon qui perd. Enfin, tu sais, le congé maternité, tout ça en Corée. C'est pas... les vacances, congé maternité, tout ça, ils connaissent pas trop. Donc, j'avais arrêté de travailler avec à la base l'idée de reprendre. Comme je t'avais dit, je m'étais dit, oh, je reprendrai plus tard et tout. Et en fait, je me disais, mais non, il est tout petit, je peux pas me séparer de lui, quoi. Et en fait, il y a tellement de choses la première année et tellement de premières fois que j'ai pas envie de louper que j'ai pas repris.
T'as de la chance. Mais alors, comment ça se passe alors financièrement, si je peux te poser la question ? Vous vivez seulement sur le salaire de votre mari et c'est assez confortable pour vous parce que tu as quand même une bouche supplémentaire à nourrir, quoi.
Ouais, bah après, se nourrit, le lait maternel, c'est pas très cher, ça va.
Non, c'est clair.
Non, après, honnêtement, pendant ma grossesse, j'ai bossé vraiment à fond. C'est-à-dire vraiment à fond. Donc, on a mis pas mal de côté. Après, on vit sur le salaire de mon mari. Et après, je fais quelques trucs en freelance. Après, je fais des choses du modeling et tout à côté aussi.
Ok.
Voilà.
Donc, tu as des petites sources de revenus à droite et à
gauche.
Ouais,
après, c'est vraiment pas grand-chose, mais... pour l'instant, on vit sur le salaire de mon mari. Je réfléchis vraiment beaucoup à ce que je pourrais faire à l'avenir pour travailler aussi, parce que j'ai besoin de travailler, mais j'ai pas envie d'envoyer mon enfant, jardin d'enfant encore.
Mais après, je sais pas du coup comment ils arrivent à subvenir à leurs besoins sur un seul salaire.
Après, ça change de plus en plus. De plus en plus, il y a des femmes qui se remettent à travailler, mais en général, elles se mettent à travailler plus tard de nouveau. Parce que, ne serait-ce que parce qu'en fait, l'école, les horaires d'école aussi, par exemple, c'est pas compatible avec des horaires de travail, quoi.
Donc, oui, en donc général, c'est 8h, 3h comme aux US.
Ouais, c'est un peu dans le style, quoi. Ouais. Donc c'est soit elles se mettent à travailler que quand l'enfant est plus grand et qu'il est, qu'il a des activités après l'école et qu'il peut se déplacer de l'une à l'autre tout seul, soit elles font un petit part-time, quoi.
Tu me disais que tu voulais potentiellement le mettre à partir de 3 mois en crèche. Donc, j'imagine qu'il y a quand même pour celles qui souhaitent travailler, je ne sais pas, un système de nanny ou un système de crèche.
Le système de nanny, pas trop, mais ouais, le système de crèche, jardin d'enfant, en fait, ça va ensemble. Après, dans la majorité des cas, les crèches prennent à partir de 1 an seulement.
D'accord. Donc, ça veut dire que tu es quand même toujours bloquée la première année, quoi.
Ouais. Et après, certaines prennent à partir de 100 jours. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Corée, ils ont une tradition que... et qui est encore très respectée, c'est que tu ne sors pas avec ton bébé à l'extérieur avant qu'il n'ait atteint les 100 jours.
100 jours. Je crois qu'en Chine, c'était le premier mois, non ?
Ouais, bah, 100 jours, c'est 3 mois quand même, c'est long, quoi. Moi, je sais que quand je suis sortie dehors, sortie de l'hôpital, et pourtant, du coup, il avait déjà presque un mois, hein, avec tout ça, et que j'ai envoyé une photo à ma belle-mère avec la poussette, elle était mais horrifiée. Elle me disait, mais oh là là, il va... comme si j'allais le tuer, quoi.
Mais pourquoi ? Je pense... Moi, je me rappelle, Pierre, je l'ai sorti, genre... mais dès qu'on est sorti de l'hôpital, donc après 48 heures, le 72 heures après, il était dehors dans le parc, quoi.
Ben oui, mais ils ont cette idée qu'en fait, c'est des petits êtres fragiles jusqu'à 100 jours. Et à 100 jours, ils font une fête et après, il a le droit de sortir dehors, quoi. Et après, ils s'étonnent pourquoi à 100 jours, ils tombent tous malades. Ben, tu m'étonnes.
Oui. Même s'il est toujours un peu jeune, est-ce que tu dénotes des différences culturelles, par exemple, entre ce que toi, tu veux mettre en place et ce que ton mari, lui, veut mettre en place ?
Ah, mon mari, il n'a pas d'idée parce qu'en fait, mon mari me suit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y connaît pas grand-chose en termes d'éducation. Donc, il me dit, tu veux comme ça ? Ok. Donc, en fait, il n'y a pas de conflit là-dessus.
Ok. Donc, il est plutôt cool là-dessus.
Voilà.
Tu trouves qu'il est impliqué quand même dans son rôle de père ? Parce que j'imagine qu'on est quand même dans un pays un peu plus sexiste, je dirais.
Ouais. Ouais, il l'est. Après, je dirais que... Après, je ne sais pas si c'est vraiment lié à la culture, mais je pense que c'est assez fréquent aussi pour des hommes, le premier mois, les premiers mois, de ne pas être forcément si impliqué que ça. Je pense que ça prend un peu de temps pour former le lien. C'est vrai que nous, en tant que femmes, on est enceinte pendant 9 mois. Tu vois, eux, ils le rencontrent. Ça prend un peu de temps pour créer un lien. En plus, bon, bah, un nouveau-né, ça ne sourit pas, ça ne gagouille pas. Donc il n'était pas forcément... Après, il m'aidait, quoi. Mais il ne prenait pas trop d'initiative au départ. Et puis maintenant, si, il est impliqué. C'est lui qui lui donne son bain. C'est toujours lui qui donne son bain. Comme je l'allaite et que du coup il n'a jamais eu aucun biberon, même de l'attirer, il n'a jamais eu un biberon dans la bouche. Oui. Et que du coup, bah, c'est moi aussi que du coup le fait le coucher, puisque forcément je l'allaite avant. J'avais envie qu'ils aient aussi un moment vraiment à eux, juste eux deux, et puis un peu tactile. Donc le bain, c'est le papa. C'est leur moment.
D'accord. Oh, c'est mignon. Alors, quelle langue vous instaurez à la maison ? Est-ce qu'il lui parle coréen et tu lui parles français ?
Ouais, alors je parle 100%, enfin mon mari parle 100% coréen dans toutes les circonstances. Moi à la base, du coup je parle que français quand je parle à Luca. Le problème c'est que bah, l'idée que normalement une personne une langue, bah, on peut pas vraiment le faire puisque si je parle que français, mon mari ne comprend pas.
Oui.
Et j'ai pas non plus envie de parler coréen face à Luca parce que j'ai pas envie qu'il apprenne du mauvais coréen en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il aura tellement déjà de soucis, peut-être de discrimination ici, où en fait on va lui dire qu'il n'est pas vraiment coréen, même s'il a un passeport coréen, mais parce qu'il est blond. Donc, Voilà.
Tu penses qu'il va avoir ça?
Ah oui,
tu
parce
penses
que
qu'ils sont si...
Ah oui, je connais des familles multiculturelles ici, et c'est vrai que quand ils sont cheveux noirs ou tout, ça passe, mais quand ils sont plus clairs de peau ou tout, Lucas, il est presque blond, il est très blanc de peau. En général, ouais, bah, ils se ressemblent beaucoup, les Asiatiques, donc dès qu'il y en a un qui sort, il n'est pas coréen, quoi. Ouais.
C'est si péjoratif que ça?
C'est pas forcément péjoratif, mais après, dans la bouche d'enfant, quand on...
Oui, quand
c'est...
on est
même
différent,
c'est... Même si c'est pas péjoratif, c'est sans filtre. C'est juste, bah, t'es pas comme nous, tu ressembles pas, t'es pas coréen. Donc forcément, ouais. c'est pas vu méchamment, hein, d'un enfant de 3 ou 4 ans, mais c'est quand
oui,
même...
Oui, les différences, compliqué. Ça attire toujours l'œil.
Voilà. Donc je tiens vraiment à ce que le coréen, il le parle parfaitement pour qu'il puisse dire « je suis coréen », quoi. Et pas... j'aime pas cette idée en anglais, comme on dit, tu sais, « half Korean ».
Ouais.
Il n'est pas moitié, il est 100% coréen, 100% français, il n'est pas moitié, ça en fait pas, voilà. Donc, ouais, j'ai vraiment envie qu'il parle bien coréen, donc je parle anglais à mon mari quand je suis face à Luca.
Ah oui, donc oui, j'avais complètement aimé l'anglais, mais alors donc du coup, tu penses que tu vas essayer de mettre en place le français et le coréen avant l'anglais?
En fait, pour moi, l'anglais, comme dit, je l'ai vraiment utilisé vraiment juste parce que j'ai pas envie d'utiliser le coréen et que j'ai pas d'autre choix pour communiquer avec mon mari.
D'accord.
Après, qu'il parle pas anglais, il l'apprendra de toute façon à l'école. Évidemment, okay. Ce sera important, mais c'est pas ma priorité. Enfin, pour moi, il est franco-coréen, donc les langues importantes pour lui, c'est le français et le coréen, prioritairement, quoi. Enfin, qu'il doit parler vraiment nativement. L'anglais, s'il fait des erreurs plus tard, c'est pas grave.
Là, la façon dont tu vois le futur, vu qu'il vient d'avoir un an, est-ce que tu vas le mettre... est-ce que tu es prête à le mettre à la crèche, ou tu penses
absolument
que tu vas conserver ce système-là pendant un peu plus longtemps?
Absolument pas prête. Absolument pas prête parce qu'il allait toujours. Enfin, je suis toujours en allaitement.
Félicitations.
Merci. Je ne suis pas prête de lâcher. Je crois qu'il lâchera avant que je ne sois prête.
Oui.
Et après, en fait, dans mon système d'éducation, j'aimerais en fait pouvoir l'envoyer un peu en crèche parce que j'aimerais qu'il soit un petit peu en collectivité,
oui.
Qu'il soit avec d'autres enfants, qu'il ait du coréen et tout, mais leur système ne me convient pas. C'est-à-dire que, par exemple, Luca, il est en DME.
Pas la diversification menée par l'enfant.
Voilà, donc il est vraiment en DME, et si là-bas, il y a quelqu'un qui essaye de lui mettre une cuillère dans la bouche, et bah, il se retrouvera certainement avec une cuillère dans la figure. Et Luca qui ne mangera rien. Ça, après, les écrans, je n'utilise absolument aucun écran avec lui, et c'est tout, quoi.
Alors, comment tu arrives à trouver des outils linguistiques en Corée? Est-ce que tu peux te faire shipper des livres français? Comment...
Non, ça, j'ai tout fait ramener de France. J'ai,
ouais.
Quand mes parents, tout le monde, ma famille, quand ils venaient, à chaque fois, ils veulent ramener tout le monde veut ramener des vêtements, en général. C'est super sympa, mais en fait, des vêtements, j'en trouve ici. Moi, ramenez-moi des livres.
Je comprends bien.
Ramenez-moi des livres, c'est ça que je veux, quoi. Et ouais, donc j'ai quelques livres, des livres sonores, des choses comme ça.
D'accord. Tu peux pas essayer de faire shipper? Je sais que nous, on peut faire shipper Amazon France. Je sais pas si t'as Amazon en Corée. Ça me peut paraître un peu bête comme question.
Je crois pas. Mais non, c'est pas si bête que ça. Il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas ici. Parce qu'il y a d'autres compagnies qui ont le monopole, donc... Je sais pas, faudrait que je vérifie. Après, je pense que j'ai tellement peur des frais de port faramineux que je sais pas si ça vaut la peine.
Non, mais c'est un bon message à faire passer. Arrêtez de nous acheter des vêtements et achetez-nous des livres.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu aurais un conseil à offrir à une maman dans ton cas, ou même une famille en fait qui veut venir s'installer en Corée avec leur enfant?
C'est très, vraiment très difficile à dire parce que je pense qu'on a tous une façon de vivre la grossesse très différente. Moi, je connais une autre Française ici qui, en fait, a adoré le système coréen, quoi.
Oui.
Et en fait, ça me convenait juste pas. Donc, après, par contre, je pourrais peut-être avoir un conseil plutôt pour quelqu'un qui est dans un contexte d'une famille multiculturelle.
Oui.
Je pense que c'est super important de parler de... Quand on a surtout une culture très différente sur le système éducatif, comme c'est le cas entre la Corée et la France, je pense que ça nous a beaucoup aidé, mon mari et moi, de discuter en fait éducation avant même que je sois enceinte. Parce qu'il y a vraiment des tels désaccords que 9 mois, ça suffit pas.
Mais alors, t'en as par exemple en tête qui soit si...
Les écrans.
Si différents.
Les écrans et les portables, c'est une catastrophe.
Pourquoi ils sont à fond là-dedans dès qu'ils sont nés?
La Corée, c'est le pays de Samsung et de LG.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est quand un enfant il pleure un petit peu dans une poussette, on le met devant, on lui donne un téléphone. Et en fait, ils ont tellement des anciens téléphones qui traînent dans les tiroirs, c'est le téléphone du bébé, quoi. Quand il mange pas, on le met au restaurant, on met le téléphone avec un dessin animé et on lui met une cuillère dans la bouche, quoi. Et moi, quand je dis que non, il n'y aura pas d'écran, et pas parce qu'il pleure 2 minutes qu'on va le mettre devant l'écran, oui, ça le calme, je sais bien, mais non.
Mais je crois que ça le calme 2 minutes, mais après, il te fait des crises d'hystérie parce qu'ils sont addictés, quoi.
Je ne l'ai jamais fait, mais ça, ou l'achat du téléphone, pour lui, il dit, mais après, il faudra qu'il ait un téléphone, parce que tous ses copains ont un téléphone. Oui,
mais il a un an.
Non, mais en fait, moi, j'étais quand j'enseignais, en fait, à 4-5 ans, ils ont des watchs. C'est-à-dire des trucs pour enfants, téléphone pour enfants.
D'accord.
Voilà, donc vraiment très tôt, 4-5 ans.
La vache. Et après, quel est l'intérêt ? Je comprends pas.
Parce que les parents peuvent traquer GPS et puis les appeler.
Ah, c'est flippant.
Ouais.
C'est flippant, mais c'est culturel, donc on le voit de nos yeux d'occidentaux.
Ouais, mais ça, c'est un truc que je me suis adaptée à la culture coréenne sur beaucoup de choses, mais ça, je ne céderai pas là-dessus.
D'accord. Mais alors, tu as des trucs positifs, par exemple, en Corée, qu'ils mettent en place et qu'ils ne le mettent pas nécessairement en France ?
Oui, après, je pense que, de manière générale, c'est tellement un environnement... On est vraiment en sécurité, en fait. Donc, on n'a pas peur.
Mm-hmm.
Donc,
puis, c'est tellement plus propre.
Voilà, mais c'est propre. Il y a des caméras partout. Enfin... les enfants rentrent de l'école tout seuls sans aucun souci, ils prennent le métro, oui. Tout ce que tu veux, et je pense que du coup ça sera beaucoup plus facile de les laisser plus autonomie qu'en France, quoi.
Oui,
vraiment,
ça c'est un bon point positif.
Ouais, ça c'est un gros point positif.
Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Est-ce qu'on peut te souhaiter de retourner travailler, ou alors est-ce qu'on peut te souhaiter d'enchaîner sur un deuxième bébé?
Ah, mais moi, j'étais à peine accouchée de Lucas, j'attendais déjà, j'ai déjà envie du deuxième.
Je suis tellement d'accord. Dès que j'ai accouché, je fais bon.
Moi, les gens me prennent pour une folle, mais après, l'allaitement, ça retarde les choses, hein, forcément.
Oui.
Mais ouais, j'espère deuxième.
Bah, ce serait top. Tu les veux rapprocher, ou comment tu vois un peu le truc?
Ah, mais moi, comme dit, hein, moi, quand je dis que j'étais prête d'après l'accouchement, c'est vraiment j'étais prête. C'était pas juste l'idée, en fait, que si j'avais pu tomber enceinte direct, j'aurais voulu.
Et parce qu'en Corée, ils sont comme en Chine à faire un seul enfant, tu penses, ou ils sont ouverts à en faire plusieurs?
Il y a très peu d'enfants, parce que ça a évolué un petit peu, parce que le gouvernement a mis des aides en place. Mais en fait, c'est un tel budget d'avoir un enfant. Je ne parle pas juste comme aux États-Unis. Mais en fait, je pense que c'est un peu similaire avec les États-Unis. Que ce soit l'accouchement, le suivi médical, mais après l'éducation, c'est un tel budget qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'enfants, en fait.
Oui. Parce qu'ils n'ont pas des systèmes d'éducation gratuit ou un système médical gratuit, c'est ça ? C'est tout à ta charge ?
Oui, c'est à charge. Donc, voilà, il y a un peu un système de sécurité sociale qui s'est mis en place. Mais bon, voilà. Et après, l'école, c'est juste hors de prix, quoi.
Et le coût de la vie, il est quand même élevé ou pas en Corée ?
Ah, c'est très élevé.
Ouais.
Ouais, c'est très élevé. Je crois que Séoul doit être un peu. Je crois que ça doit être dans le top 10 hein, des villes les plus chères. Ah.
Bah, tu vois, je savais pas du tout. Moi, en tout cas, Séoul, ça reste quand même dans le top de ma liste. Après avoir fait le Japon, j'ai été un peu curieuse de la Corée. Et puis, je trouve que vous avez c'est vraiment la meilleure cuisine pour moi. Vraiment, les bim bim bap et tout, à fond les ballons, quoi.
Luca, il adore aussi.
Oh là là, c'est pimenté, tellement bon.
Il a un an et puis un pimenté, ça lui fait pas peur. C'est déjà un coréen.
Ouais.
Ouais.
Alors, attends, t'as démarré le piment à quel âge ? Quand il avait combien de mois ?
6 mois.
Oh la vache.
Début de la DME, piment, ail rôti, tout ce que tu veux.
Parce qu'il mange extrêmement épicé là-bas.
Ouais, ouais.
À chaque fois, moi, je suis un peu genre mild, parce que j'aime pas. Enfin, j'ai l'impression d'être un dragon sinon, mais.
Pas trop pimenté, au contraire. C'est ce qu'on donne aux enfants ici.
Je sais pas combien de temps ça fait New York-Séoul. Je pense que c'est quand même sacrément long, mais pourquoi pas.
Bah écoute, viens, si tu veux. C'est mieux que Tokyo, tu verras.
C'est vrai ? Ouais. Parce que j'ai vraiment adoré Tokyo, donc me lance pas là-dedans.
J'adore le Japon, mais le Japon, je me sens plus comme un genre musée, quoi. C'est très beau à voir, mais je me sentirais pas à y vivre. Je me sens un peu genre, je regarde, quoi.
Hélène, je te remercie pour ton témoignage. J'espère que ça va aider peut-être à une autre nana qui veut peut-être vivre en Corée et qui se demande à quoi ressemble l'accouchement là-bas.
Bah, merci, c'est sympa.
Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao !